Jean-Jacques Rousseau, Émile et Sophie ou les solitaires. Lettre 1. J'étais libre, j'étais heureux, ô mon maître. Vous m'aviez fait un cœur propre à goûter le bonheur, et vous m'aviez donné Sophie, aux délices de l'amour, aux épanchements de l'amitié. Une famille naissante ajoutait les charmes de la tendresse paternelle. Tout m'annonçait une vie agréable, tout me promettait une douce vieillesse et une mort paisible dans les bras de mes enfants. Hélas, qu'est devenu ce temps heureux de jouissance et d'espérance, où l'avenir embellissait le présent, où mon cœur, ivre de sa joie, s'abreuvait chaque jour d'un siècle de félicité. Tout s'est évanoui comme un songe. Jeune encore, j'ai tout perdu. Femme, enfant, ami, tout enfin, jusqu'au commerce de mes semblables. Mon cœur a été déchiré par tous ces attachements. Il ne tient plus qu'au moindre de tous, au tiède amour d'une vie sans plaisir, mais exempte de remords. Si je survis longtemps à mes pertes, mon sort est de vieillir et mourir seul, sans jamais revoir un visage d'homme, et la seule providence me fermera les yeux. En cet état, qui peut m'engager encore à prendre soin de cette triste vie que j'ai si peu de raison d'aimer? Des souvenirs et la consolation d'être dans l'ordre en ce monde, en m'y soumettant sans murmure aux décrets éternels. Je suis mort dans tout ce qui m'était cher, j'attends sans impatience et sans crainte que ce qui reste de moi rejoigne ce que j'ai perdu. Mais vous, mon cher maître, vivez-vous? Êtes-vous mortel encore? Êtes-vous encore sur cette terre d'exil, avec votre Émile, ou si déjà vous habitez avec Sophie la patrie des âmes justes? Hélas, où que vous soyez, vous êtes mort pour moi. Mes yeux ne vous verront plus, mais mon cœur s'occupera de vous sans cesse. Jamais je n'ai mieux connu le prix de vos soins qu'après que la dure nécessité m'a si cruellement fait sentir ses coups et m'a tout ôté, excepté moi. Je suis seul, j'ai tout perdu. Mais je me reste, et le désespoir ne m'a point anéanti. Ces papiers ne vous parviendront pas, je ne puis l'espérer. Sans doute ils périront sans avoir été vus d'aucun homme. Mais n'importe, ils sont écrits. Je les rassemble, je les lis, je les continue, et c'est à vous que je les adresse. C'est à vous que je veux tracer ces précieux souvenirs qui nourrissent et navrent mon cœur. C'est à vous que je veux rendre compte de moi, de mes sentiments, de ma conduite, de ce cœur que vous m'avez donné. Je dirai tout, le bien, le mal, mes douleurs, mes plaisirs, mes fautes, mais je crois n'avoir rien à dire qui puisse déshonorer votre ouvrage. Mon bonheur a été précoce. Il commença dès ma naissance. Il devait finir avant ma mort. Tous les jours de mon enfance ont été des jours fortunés, passés dans la liberté, dans la joie ainsi que dans l'innocence. Je n'appris jamais à distinguer mes instructions de mes plaisirs. Tous les hommes se rappellent avec attendrissement les jeux de leur enfance, mais je suis le seul, peut-être, qui ne mêle point à ses doux souvenirs ceux des pleurs qu'on lui fit verser. Hélas, si je fusse mort enfant, j'aurais déjà joui de la vie, et n'en aurais pas connu les regrets. Je devins jeune homme, et ne cessais point d'être heureux. Dans l'âge des passions, je formais ma raison par mes sens. Ce qui sert à tromper les autres fut pour moi le chemin de la vérité. J'appris à juger sainement des choses qui m'environnaient et de l'intérêt que j'y devais prendre. J'en jugeais sur des principes vrais et simples. L'autorité, l'opinion, n'altérait point mes jugements. Pour découvrir les rapports des choses entre elles, j'étudiais les rapports de chacune d'elles à moi. Par deux termes connus, j'apprenais à trouver le troisième. Pour connaître l'univers partout ce qui pouvait m'intéresser, il me suffit de me connaître, ma place assignée, tout fut trouvé. J'appris ainsi que la première sagesse est de vouloir ce qui est et de régler son cœur sur sa destinée. Voilà tout ce qui dépend de nous, me disiez-vous. Tout le reste est de nécessité. Celui qui lutte le plus contre son sort est le moins sage et toujours le plus malheureux. Ce qu'il peut changer à sa situation le soulage moins que le trouble intérieur qu'il se donne pour cela ne le tourmente. Il réussit rarement et ne gagne rien à réussir. Mais quel être sensible peut vivre toujours sans passion, sans attachement? Ce n'est pas un homme, c'est une brute ou c'est un dieu. Ne pouvant donc me garantir de toutes les affections qui nous lient aux choses, vous m'apprîtes du moins à les choisir, à n'ouvrir mon âme qu'aux plus nobles, à ne l'attacher qu'aux plus dignes objets, qui sont mes semblables, à étendre pour ainsi dire le moi humain sur toute l'humanité, et à me préserver ainsi des viles passions qui le concentrent. Quand mes sens éveillés par l'âge me demandèrent une compagne, vous épurâtes leur feu par les sentiments. C'est par l'imagination qui les anime que j'appris à les subjuguer. J'aimais Sophie avant même que de la connaître. Cet amour préservait mon cœur des pièges du vice. Il y portait le goût des choses belles et honnêtes. Il y gravait, en traits ineffaçables, les saintes lois de la vertu. Quand je vis enfin ce digne objet de mon culte, quand je sentis l'empire de ses charmes, tout ce qui peut entrer de doux, de ravissant dans une âme, pénétra la mienne d'un sentiment exquis que rien ne peut exprimer. Jour chéri de mes premières amours, jour délicieux, que ne pouvez-vous recommencer sans cesse et remplir désormais tout mon être? Je ne voudrais point d'autre éternité. Vains regrets, souhaits inutiles, tout est disparu sans retour. Après tant d'ardents soupirs, j'en obtins le prix, tous mes vœux furent comblés. Époux et toujours amant, je trouvais dans la tranquille possession un bonheur d'une autre espèce, mais non moins vrai que dans le délire des désirs. Mon maître, vous croyez avoir connu cette fille enchanteresse. Oh, combien vous vous trompez! Vous avez connu ma maîtresse, ma femme, mais vous n'avez pas connu Sophie. Ses charmes de toute espèce étaient inépuisables. Chaque instant semblait les renouveler, et le dernier jour de sa vie m'en montra que je n'avais pas connu. Déjà père de deux enfants, je partageais mon temps entre une épouse adorée et les chers fruits de sa tendresse. Vous m'aidiez à préparer à mon fils une éducation semblable à la mienne, et ma fille, sous les yeux de sa mère, eut appris à lui ressembler. Toutes mes affaires se bornaient aux soins du patrimoine de Sophie. J'avais oublié ma fortune pour jouir de ma félicité. Trompeuse félicité. Trois fois j'ai senti ton inconstance. Ton terme n'est qu'un point, et lorsqu'on est au comble, il faut bientôt décliner. Était-ce par vous, père cruel, que devait commencer ce déclin? Par quelle fatalité pûtes-vous quitter cette vie paisible que nous menions ensemble? Comment mes empressements vous rebutèrent-ils de moi? Vous vous complaisiez dans votre ouvrage, je le voyais. Je le sentais, j'en étais sûr. Vous paraissiez heureux de mon bonheur, les tendres caresses de Sophie semblaient flatter votre cœur paternel. Vous nous aimiez, vous vous plaisiez avec nous, et vous nous quittâtes. Sans votre retraite, je serais heureux encore. Mon fils vivrait peut-être, ou d'autres mains n'auraient point fermé ses yeux. Sa mère, vertueuse et chérie, vivrait elle-même dans les bras de son époux. Retraite funeste qui m'a livré sans retour aux horreurs de mon sort. Non, jamais sous vos yeux le crime et ses peines n'eussent approché de ma famille. En l'abandonnant, vous m'avez fait plus de maux que vous ne m'aviez fait de bien en toute ma vie. Bientôt le ciel cessa de bénir une maison que vous n'habitiez plus. Les maux, les afflictions se succédaient sans relâche. En peu de mois, nous perdîmes le père, la mère de Sophie, et enfin sa fille, sa charmante fille qu'elle avait tant désirée, qu'elle idolâtrait, qu'elle voulait suivre. À ce dernier coup, sa constance ébranlée acheva de l'abandonner. Jusqu'à ce temps, contente et paisible dans sa solitude, elle avait ignoré les amertumes de la vie. Elle n'avait point armé contre les coups du sort cette âme sensible et facile à s'affecter. Elle sentit ses pertes comme on sent ses premiers malheurs. Aussi ne furent-elles que les commencements des nôtres. Rien ne pouvait tarir ses pleurs. La mort de sa fille lui fit sentir plus vivement celle de sa mère. Elle appelait sans cesse l'une ou l'autre en gémissant. Elle faisait ressentir de leurs noms et de ses regrets tous les lieux où jadis elle avait reçu leurs innocentes caresses. Tous les objets qui les lui rappelaient aigrissaient ses douleurs. Je résolus de l'éloigner de ces tristes lieux. J'avais dans la capitale ce qu'on appelle des affaires, et qui n'en avait jamais été pour moi jusqu'alors. Je lui proposais d'y suivre une amie qu'elle s'était faite au voisinage, et qui était obligée de s'y rendre avec son mari. Elle y consentit pour ne point se séparer de moi, ne pénétrant pas mon motif. Son affliction lui était trop chère pour chercher à la calmer. Partager ses regrets, pleurer avec elle, était la seule consolation qu'on pût lui donner. En approchant de la capitale, je me sentis frappé d'une impression funeste que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Les plus tristes pressentiments s'élevaient dans mon sein. Tout ce que j'avais vu, tout ce que vous m'aviez dit des grandes villes, me faisait trembler sur le séjour de celle-ci. Je m'effrayais d'exposer une union si pure à tant de dangers qui pouvaient l'altérer. Je frémissais en regardant la triste Sophie, de songer que j'entraînais moi-même tant de vertus et de charmes dans ce gouffre de préjugés et de vices où vont se perdre de toutes parts l'innocence et le bonheur. Cependant, sûr d'elle et de moi, je méprisais cet avis de la prudence que je prenais pour un vain pressentiment. En me laissant tourmenter, je le traitais de chimère. Hélas, je n'imaginais pas le voir si tôt et si cruellement justifié. Je ne songeais guère que je n'allais pas chercher le péril dans la capitale, mais qu'il m'y suivait. Comment vous parler des 2 ans que nous passâmes dans cette fatale ville et de l'effet cruel que fit sur mon âme et sur mon sort ce séjour empoisonné? Vous avez trop su ces tristes catastrophes dont le souvenir effacé dans des jours plus heureux vient aujourd'hui redoubler mes regrets en me ramenant à leur source. Quel changement produisit en moi ma complaisance pour des liaisons trop aimables que l'habitude commençait à tourner en amitié? Comment l'exemple et l'imitation, contre lesquels vous aviez si bien armé mon cœur, l'amenèrent-ils insensiblement à ces goûts frivoles que, plus jeune, j'avais su dédaigner? Qu'il est différent de voir les choses distraites par d'autres objets ou seulement occupées de ceux qui nous frappent. Ce n'était plus le temps où mon imagination échauffée ne cherchait que Sophie et rebutait tout ce qui n'était pas elle. Je ne la cherchais plus, je la possédais. Et son charme embellissait alors autant les objets qu'il les avait défigurés dans ma première jeunesse. Mais bientôt ces mêmes objets affaiblirent mes goûts en les partageant. Usé peu à peu sur tous ces amusements frivoles, mon cœur perdait insensiblement son premier ressort et devenait incapable de chaleur et de force. J'errais avec inquiétude d'un plaisir à l'autre. Je recherchais tout et je m'ennuyais de tout. Je ne me plaisais qu'où je n'étais pas et m'étourdissais pour m'amuser. Je sentais une révolution dont je ne voulais point me convaincre. Je ne me laissais pas le temps de rentrer en moi, crainte de ne m'y plus retrouver. Tous mes attachements s'étaient relâchés, toutes mes affections s'étaient attiédies. J'avais mis un jargon de sentiments et de morale à la place de la réalité. J'étais un homme galant sans tendresse, un stoïcien sans vertu, un sage occupé de folie. Je n'avais plus de votre Émile que le nom et quelques discours. Ma franchise, ma liberté, mes plaisirs, mes devoirs, vous, mon fils, Sophie elle-même, tout ce qui jadis animait, élevait mon esprit et faisait la plénitude de mon existence, en se détachant peu à peu de moi, semblait m'en détacher moi-même et ne laissait plus dans mon âme affaissée qu'un sentiment importun de vide et d'anéantissement. Enfin, je n'aimais plus, ou croyais ne plus aimer. Ce feu terrible, qui paraissait presque éteint, couvait sous la cendre pour éclater bientôt avec plus de fureur que jamais. Changement 100 fois plus inconcevable. Comment celle qui faisait la gloire et le bonheur de ma vie en fit-elle la honte et le désespoir? Comment décrirais-je un si déplorable égarement. Non, jamais ce détail affreux ne sortira de ma plume ni de ma bouche. Il est trop injurieux à la mémoire de la plus digne des femmes, trop accablant, trop horrible à mon souvenir, trop décourageant pour la vertu. J'en mourrais 100 fois avant qu'il fût achevé. Morale du monde, piège du vice et de l'exemple, trahison d'une fausse amitié, inconstance et faiblesse humaine, qui de nous est à votre épreuve? Ah, si Sophie a souillé sa vertu, quelle femme osera compter sur la sienne? Mais de quelle trempe unique dut être une âme qui peut revenir de si loin à tout ce qu'elle fut auparavant? C'est de vos enfants régénérés que j'ai à vous parler. Tous leurs égarements vous ont été connus. Je n'en dirai que ce qui tient à leur retour à eux-mêmes et sert à lier les événements. Sophie, consolée, ou plutôt distraite par son amie et par les sociétés où elle l'entraînait, n'avait plus ce goût décidé pour la vie privée et pour la retraite. Elle avait oublié ses pertes et presque ce qui lui était resté. Son fils, en grandissant, allait devenir moins dépendant d'elle, et déjà la mère apprenait à s'en passer. Moi-même, je n'étais plus son Émile, je n'étais que son mari, et le mari d'une honnête femme, dans les grandes villes, est un homme avec qui l'on garde en public toutes sortes de bonnes manières, mais qu'on ne voit point en particulier. Longtemps, nos coteries furent les mêmes, elles changèrent insensiblement. Chacun des deux pensait se mettre à son aise, loin de la personne qui avait droit d'inspection sur lui. Nous n'étions plus un, nous étions deux. Le ton du monde nous avait divisés, et nos cœurs ne se rapprochaient plus. Il n'y avait que nos voisins de campagne et amis de ville qui nous réunissent quelquefois. La femme, après m'avoir fait souvent des agaceries, auxquelles je ne résistais pas toujours sans peine, se rebuta, et s'attachant tout à fait à Sophie, en devint inséparable. Le mari vivait fort lié avec son épouse et par conséquent avec la mienne. Leur conduite extérieure était régulière et décente, mais leur maxime aurait dû m'effrayer. Leur bonne intelligence venait moins d'un véritable attachement que d'une indifférence commune sur les devoirs de leur état. Peu jaloux des droits qu'ils avaient l'un sur l'autre, ils prétendaient s'aimer beaucoup plus, en se passant tout leur goût sans contrainte, et ne s'offensant point de n'en être pas l'objet. Que mon mari vive heureux sur toute chose, disait la femme, que j'ai ma femme pour amie, je suis content, disait le mari. Nos sentiments, poursuivit-il, ne dépendent pas de nous, mais nos procédés en dépendent. Chacun met du sien tout ce qu'il peut au bonheur de l'autre. Peut-on mieux aimer ce qui nous est cher que de vouloir tout ce qu'il désire? On évite la cruelle nécessité de se fuir. Ce système ainsi mis à découvert, tout d'un coup, nous eût fait horreur, mais on ne sait pas combien les épanchements de l'amitié font passer des choses qui se révolteraient sans elles. On ne sait pas combien une philosophie, si bien adaptée aux vices du cœur humain, une philosophie qui n'offre, au lieu des sentiments qu'on n'est plus maître d'avoir, au lieu du devoir caché qui tourmente et qui ne profite à personne, que soins, procédés, bienséance, attention, que franchise, liberté, sincérité, confiance, on ne sait pas, dis-je, combien tout ce qui maintient l'union entre les personnes, quand les cœurs ne sont plus unis, a d'attrait pour les meilleurs naturels et devient séduisant sous le masque de la sagesse. La raison même aurait peine à se défendre si la conscience ne venait au secours. C'était là ce qui maintenait entre Sophie et moi la honte de nous montrer un empressement que nous n'avions plus. Le couple, qui nous avait subjugués, s'outrageait sans contrainte et croyait s'aimer. Mais un ancien respect l'un pour l'autre, que nous ne pouvions vaincre, nous forçait à nous fuir pour nous outrager. En paraissant nous être mutuellement à charge, nous étions plus près de nous réunir qu'eux qui ne se quittaient point. Cesser de s'éviter quand on s'offense, c'est être sûr de ne se rapprocher jamais. Mais au moment où l'éloignement entre nous était le plus marqué, tout changea de la manière la plus bizarre. Tout à coup, Sophie devint aussi sédentaire et retirée qu'elle avait été dissipée jusqu'alors. Son humeur, qui n'était pas toujours égale, devint constamment triste et sombre. Enfermé depuis le matin jusqu'au soir, dans sa chambre, sans parler, sans pleurer, sans se soucier de personne, elle ne pouvait souffrir qu'on l'interrompît. Son amie elle-même lui devint insupportable, elle le lui dit, et la reçut mal sans la rebuter. Elle me pria plus d'une fois de la délivrer d'elle. Je lui fis la guerre de ce caprice, dont j'accusai un peu de jalousie. Je le lui dis même un jour en plaisantant. « Non, monsieur, je ne suis point jalouse, me dit-elle d'un air froid et résolu. Mais j'ai cette femme en horreur. Je ne vous demande qu'une grâce, c'est que je ne la revois jamais. » Frappée de ces mots, je voulus savoir la raison de sa haine. Elle refusa de répondre. Elle avait déjà fermé sa porte au mari, je fus obligée de la fermer à la femme, et nous ne les vîmes plus. Cependant, sa tristesse continuait et devenait inquiétante. Je commençais de m'en alarmer, mais comment en savoir la cause qu'elle s'obstinait à taire? Ce n'était pas à cette âme fière qu'on en pouvait imposer par l'autorité. Nous avions cessé depuis si longtemps d'être les confidents l'un de l'autre, que je fus peu surpris qu'elle dédaignât de m'ouvrir son cœur. Il fallait mériter cette confiance, et soit que sa touchante mélancolie eût réchauffé le mien, soit qu'il fût moins guéri qu'il n'avait cru l'être, je sentis qu'il m'en coûtait peu pour lui rendre des soins avec lesquels j'espérais vaincre enfin son silence. Je ne la quittai plus, mais j'eus beau revenir à elle et marquer ce retour par les plus tendres empressements, je vis avec douleur que je n'avançais rien. Je voulus rétablir les droits d'époux trop négligés depuis longtemps. J'éprouvai la plus invincible résistance. Ce n'étaient plus ces refus agaçants, faits pour donner un nouveau prix à ce qu'on accorde, ce n'étaient pas non plus ces refus tendres, modestes mais absolus, qui m'enivraient d'amour et qu'il fallait pourtant respecter. C'étaient les refus sérieux d'une volonté décidée qui s'indigne qu'on puisse douter d'elle. Elle me rappelait avec force les engagements pris jadis en votre présence. Quoi qu'il en soit de moi, disait-elle, vous devez vous estimer vous-même et respecter à jamais la parole d'Émile. Mes torts ne vous autorisent point à violer vos promesses. Vous pouvez me punir, mais vous ne pouvez me contraindre, et soyez sûr que je ne le souffrirai jamais. Que répondre? Que faire sinon tâcher de la fléchir, de la toucher, de vaincre son obstination à force de persévérance? Ces vains efforts irritaient à la fois mon amour et mon amour-propre. Les difficultés enflammaient mon cœur, et je me faisais un point d'honneur de les surmonter. Jamais peut-être, après 10 ans de mariage, après un si long refroidissement, la passion d'un époux ne se ralluma si brûlante et si vive. Jamais, durant mes premières amours, je n'avais tant versé de pleurs à ses pieds. Tout fut inutile, elle demeura inébranlable. J'étais aussi surpris qu'affligé, sachant bien que cette dureté de cœur n'était pas dans son caractère. Je ne me rebutais pas, et si je ne vainquis pas son opiniâtreté, j'y crus voir enfin moins de sécheresse. Quelques signes de regret et de pitié tempéraient l'aigreur de ses refus. Je jugeais quelquefois qu'il lui coûtait. Ses yeux éteints laissaient tomber sur moi quelques regards non moins tristes, mais moins farouches, et qui semblaient porter à l'attendrissement. Je pensais que la honte d'un caprice, aussi outré, l'empêchait d'en revenir, qu'elle le soutenait faute de pouvoir l'excuser, et qu'elle n'attendait peut-être qu'un peu de contrainte pour paraître céder à la force ce qu'elle n'osait plus accorder de bon gré. Frappé d'une idée qui flattait mes désirs, je m'y livre avec complaisance. C'est encore un égard que je veux avoir pour elle, de lui sauver l'embarras de se rendre après avoir si longtemps résisté. Un jour, qu'entraîné par mes transports, je joignais aux plus tendres supplications, les plus ardentes caresses. Je la vis émue, je voulus achever ma victoire. Oppressée et palpitante, elle était prête à succomber, quand tout à coup, changeant de ton, de maintien, de visage, elle me repousse avec une promptitude, avec une violence incroyable, et me regardant d'un œil que la fureur et le désespoir rendaient effrayant. « Arrêtez, Émile, me dit-elle, et sachez que je ne vous suis plus rien. Un autre a souillé votre lit, je suis enceinte. Vous ne me toucherez de ma vie. » Et sur le champ, elle s'élance avec impétuosité dans son cabinet, dont elle ferme la porte sur elle. Je demeure écrasée. Mon maître, Ce n'est pas ici l'histoire des événements de ma vie. Ils valent peu la peine d'être écrits. C'est l'histoire de mes passions, de mes sentiments, de mes idées. Je dois m'étendre sur la plus terrible révolution que mon cœur éprouva jamais. Les grandes plaies du corps et de l'âme ne saignent pas à l'instant qu'elles sont faites. Elles n'impriment pas sitôt leur plus vive douleur. La nature se recueille pour en soutenir toute la violence, et souvent le coup mortel est porté longtemps avant que la blessure se fasse sentir. À cette scène inattendue, à ces mots que mon oreille semblait repousser, je reste immobile, anéanti. Mes yeux se ferment, un froid mortel court dans mes veines. Sans être évanoui, je sens tous mes sens arrêtés, toutes mes fonctions suspendues. Mon âme bouleversée est dans un trouble universel, semblable au chaos de la scène au moment qu'elle change, au moment que tout fuit et va prendre un nouvel aspect. J'ignore combien de temps je demeurai dans cet état, à genoux comme j'étais, et sans oser presque remuer, de peur de m'assurer que ce qui se passait n'était point un songe. J'aurais voulu que cet étourdissement eût duré toujours, mais enfin réveillé malgré moi, la première impression que je sentis fut un saisissement d'horreur pour tout ce qui m'environnait. Tout à coup je me lève, je m'élance hors de la chambre, je franchis l'escalier sans rien voir, sans rien dire à personne, je sors, je marche à grands pas, je m'éloigne avec la rapidité d'un cerf qui croit fuir par sa vitesse le trait qu'il porte enfoncé dans son flanc. Je cours ainsi sans m'arrêter, sans ralentir mon pas, jusque dans un jardin public. L'aspect du jour et du ciel m'était à charge, je cherchais l'obscurité sous les arbres. Enfin, me trouvant hors d'haleine, je me laissais tomber demi-mort sur un gazon. Où suis-je? Que suis-je devenu? Qu'ai-je entendu? Quelle catastrophe! Insensé, quelle chimère as-tu poursuivi? Amour, honneur, foi, vertu, où êtes-vous? La sublime, la noble Sophie n'est qu'une infâme. Cette exclamation que mon transport fit éclater fut suivie d'un tel déchirement de cœur qu'oppressé par les sanglots, je ne pouvais ni respirer ni gémir. Sans la rage et l'emportement qui succédèrent, ce saisissement m'eût sans doute étouffé. Oh, qui pourrait démêler, exprimer cette confusion de sentiments divers que la honte, l'amour, la fureur, les regrets, l'attendrissement, la jalousie, l'affreux désespoir me firent éprouver à la fois. Non, cette situation, ce tumulte ne peut se décrire. L'épanouissement de l'extrême joie, qui d'un mouvement uniforme semble étendre et raréfier tout notre être, se conçoit, s'imagine aisément. Mais quand l'excessive douleur rassemble dans le sein d'un misérable toutes les furies des enfers, quand mille tiraillements opposés le déchirent sans qu'il puisse en distinguer un seul, quand il se sent mettre en pièces par cent forces diverses qui l'entraînent en sens contraire, il n'est plus un. Il est tout entier à chaque point de douleur, il semble se multiplier pour souffrir. Tel était mon état. Tel il fut durant plusieurs heures. Comment en faire le tableau? Je ne dirai pas, en des volumes, ce que je sentais à chaque instant. Homme heureux, qui dans une âme étroite et dans un cœur tiède, ne connaissait de revers que ceux de la fortune, ni de passion qu'un vil intérêt, puissiez-vous traiter toujours cet horrible état de chimère, et n'éprouver jamais les tourments cruels que donnent de plus dignes attachements quand ils se rompent au cœur fait pour les sentir. Nos forces sont bornées, et tous les transports violents ont des intervalles. Dans un de ces moments d'épuisement où la nature reprend haleine pour souffrir, je vins tout à coup à penser à ma jeunesse, à vous, mon maître, à mes leçons. Je vins à penser que j'étais homme, et je me demande aussitôt. Quel mal ai-je reçu dans ma personne? Quel crime ai-je commis? Qu'ai-je perdu de moi? Si dans cet instant, tel que je suis, je tombais des nues pour commencer d'exister, serais-je un être malheureux? Cette réflexion, plus prompte qu'un éclair, jeta dans mon âme un instant de lueur que je reperdis bientôt, mais qui me suffit pour me reconnaître. Je me vis clairement à ma place, et l'usage de ce moment de raison fut de m'apprendre que j'étais incapable de raisonner. L'horrible agitation qui régnait dans mon âme n'y laissait à nul objet le temps de se faire apercevoir. J'étais hors d'état de rien voir, de rien comparer, de délibérer, de résoudre, de juger de rien. C'était donc me tourmenter vainement que de vouloir rêver à ce que j'avais à faire. C'était sans fruit écrire mes peines, et mon seul soin devait être de gagner du temps pour raffermir mes sens et rasseoir mon imagination. Je crois que c'est le seul parti que vous auriez pu prendre vous-même, si vous eussiez été là pour me guider. Résolu de laisser exhaler la fougue des transports que je ne pouvais vaincre, je m'y livre avec une furie, empreinte de je ne sais quelle volupté, comme ayant mis ma douleur à son aise. Je me lève avec précipitation, je me mets à marcher comme auparavant, sans suivre de route déterminée. Je cours, j'erre de part et d'autre, j'abandonne mon corps à toute l'agitation de mon cœur, j'en suis les impressions sans contrainte, je me mets hors d'haleine, et mêlant mes soupirs tranchants à ma respiration gênée, je me sentais quelquefois prêt à suffoquer. Les secousses de cette marche précipitée semblaient m'étourdir et me soulager. L'instinct dans les passions violentes dicte des cris, des mouvements, des gestes, qui donnent un cours aux esprits et font diversion à la passion. Tant qu'on s'agite, on n'est qu'emporté. Le morne repos est plus à craindre. Il est voisin du désespoir. Le même soir, je fis de cette différence une épreuve presque risible, si tout ce qui montre la folie et la misère humaine devait jamais exciter à rire quiconque y peut être assujetti. Après 1000 tours et retours faits sans m'en être aperçu, je me trouve au milieu de la ville, entouré de carrosses, à l'heure des spectacles, et dans une rue où il y en avait un. J'allais être écrasé dans l'embarras si quelqu'un, me tirant par le bras, ne m'eût averti du danger. Je me jette dans une porte ouverte, c'était un café. J'y suis accosté par des gens de ma connaissance. On me parle, on m'entraîne je ne sais où. Frappé d'un bruit d'instrument et d'un éclat de lumière, je reviens à moi, j'ouvre les yeux, je regarde. Je me trouve dans la salle du spectacle un jour de première représentation, pressé par la foule et dans l'impuissance de sortir. Je frémis, mais je pris mon parti. Je ne dis rien. Je me tins tranquille, quelque chair que me coûta cette apparente tranquillité. On fit beaucoup de bruit, on parlait beaucoup, on me parlait. N'entendant rien, que pouvais-je répondre? Mais un de ceux qui m'avaient amené, ayant par hasard nommé ma femme, à ce nom funeste je fis un cri perçant, qui fut ouï de toute l'assemblée, et causa quelques rumeurs. Je me remis promptement, et tout s'apaisa. Cependant, ayant attiré par ce cri l'attention de ceux qui m'environnaient, je cherchais le moment de m'évader, et m'approchant peu à peu de la porte, je sortis enfin avant qu'on eût achevé. En entrant dans la rue et retirant machinalement ma main que j'avais tenue dans mon sein durant toute la représentation, je vis mes doigts pleins de sang, et j'en crus sentir couler sur ma poitrine. J'ouvre mon sein, je regarde, je le trouve sanglant et déchiré comme le cœur qui l'enfermait. On peut penser qu'un spectateur tranquille, à ce prix, n'était pas fort bon juge de la pièce qu'il venait d'entendre. Je me hâtai de fuir, tremblant d'être encore rencontré. La nuit favorisant mes courses, je me remis à parcourir les rues, comme pour me dédommager de la contrainte que je venais d'éprouver. Je marchais plusieurs heures sans me reposer un moment. Enfin, ne pouvant presque plus me soutenir, et me trouvant près de mon quartier, je rentre chez moi, non sans un affreux battement de cœur. Je demande ce que fait mon fils. On me dit qu'il dort. Je me tais et soupire. Mes gens veulent me parler, je leur impose silence. Je me jette sur un lit, ordonnant qu'on s'aille coucher. Après quelques heures d'un repos, pire que l'agitation de la veille, je me lève avant le jour, et traversant sans bruit les appartements, j'approche de la chambre de Sophie. Là, sans pouvoir me retenir, je vais avec la plus détestable lâcheté couvrir de sang baisers et baigner d'un torrent de pleurs le seuil de sa porte. Puis, m'échappant avec la crainte et les précautions d'un coupable, je sors doucement du logis, résolu de n'y rentrer de mes jours. Ici finit ma vive et courte folie, et je rentrai dans mon bon sens. Je crois même avoir fait ce que j'avais dû faire en cédant d'abord à la passion que je ne pouvais vaincre, pour pouvoir la gouverner ensuite, après lui avoir laissé quelque essor. Le mouvement que je venais de suivre m'ayant disposé à l'attendrissement, la rage qui m'avait transporté jusqu'alors fit place à la tristesse, et je commençais à lire assez au fond de mon cœur pour y voir gravée, en traits ineffaçables, la plus profonde affliction. Je marchais cependant, je m'éloignais du lieu redoutable moins rapidement que la veille, mais aussi sans faire aucun détour. Je sortis de la ville, et prenant le premier grand chemin, je me mis à le suivre d'une démarche lente et mal assurée qui marquait la défaillance et l'abattement. À mesure que le jour croissant éclairait les objets, je croyais voir un autre ciel, une autre terre, un autre univers. Tout était changé pour moi. Je n'étais plus le même que la veille, ou plutôt je n'étais plus. C'était ma propre mort que j'avais à pleurer. Oh, combien de délicieux souvenirs vinrent assiéger mon cœur serré de détresse et le forcer de s'ouvrir à leurs douces images pour le noyer de vains regrets. Toutes mes jouissances passées venaient aigrir le sentiment de mes pertes et me rendaient plus de tourments qu'elles ne m'avaient donné de volupté. Ah, qui est-ce qui connaît le contraste affreux de sauter tout d'un coup de l'excès du bonheur à l'excès de la misère et de franchir cet immense intervalle sans avoir un moment pour s'y préparer? Hier même, au pied d'une épouse adorée, j'étais le plus heureux des êtres. C'était l'amour qui m'asservissait à ses lois, qui me tenait dans sa dépendance. Son tyrannique pouvoir était l'ouvrage de ma tendresse, et je jouissais même de ses rigueurs. Que ne m'était-il donné de passer le cours des siècles dans cet état trop aimable, à l'estimer, la respecter, la chérir, à gémir de sa tyrannie, à vouloir la fléchir sans y parvenir jamais, à demander, implorer, supplier, désirer sans cesse, et jamais ne rien obtenir. Ces temps charmants de retour attendu, d'espérance trompeuse, valaient ce même où je la possédais. Et maintenant, haï, trahi, déshonoré, sans espoir, sans ressources, je n'ai pas même la consolation d'oser former des souhaits. Je m'arrêtais, effrayé d'horreur, à l'objet qu'il fallait substituer à celui qui m'occupait avec tant de charme. Contempler Sophie avilie et méprisable. Quels yeux pouvaient souffrir cette profanation? Mon plus cruel tourment n'était pas de m'occuper de ma misère, c'était d'y mêler la honte de celle qui l'avait causée. Ce tableau désolant était le seul que je ne pouvais supporter. La veille, ma douleur stupide et forcenée m'avait garanti de cette affreuse idée. Je ne songeais à rien qu'à souffrir. Mais à mesure que le sentiment de mes maux s'arrangeait, pour ainsi dire, au fond de mon cœur, forcé de remonter à leur source, je me retraçais malgré moi ce fatal objet. Les mouvements qui m'étaient échappés en sortant ne marquaient que trop l'indigne penchant qui m'y ramenait. La haine que je lui devais me coûtait moins que le dédain qu'il y fallait joindre, et ce qui me déchirait le plus cruellement n'était pas tant de renoncer à elle que d'être forcé de la mépriser. Mes premières réflexions sur elle furent amères. Si l'infidélité d'une femme ordinaire est un crime, quel nom fallait-il donner à la sienne? Les âmes viles ne s'abaissent point en faisant des bassesses. Elles restent dans leur état. Il n'y a point pour elles d'ignominie, parce qu'il n'y a point d'élévation. Les adultères des femmes du monde ne sont que des galanteries, mais Sophie, adultère, est le plus odieux de tous les monstres. La distance de ce qu'elle est à ce qu'elle fut est immense. Non, il n'y a point d'abaissement, point de crime pareil au sien. Mais moi, reprenais-je, moi qui l'accuse, et qui n'en ai que trop le droit, puisque c'est moi qu'elle offense, puisque c'est à moi que l'ingrate a donné la mort, de quel droit osais-je la juger si sévèrement avant de m'être jugé moi-même, avant de savoir ce que je dois me reprocher de ses torts? Tu l'accuses de n'être plus la même, ô Émile, et toi, n'as-tu point changé? Combien je t'ai vu dans cette grande ville, différent près d'elle de ce que tu fus jadis? Ah, son inconstance est l'ouvrage de la tienne. Elle avait juré de t'être fidèle, et toi, n'avais-tu pas juré de l'adorer toujours? Tu l'abandonnes, et tu veux qu'elle te reste? Tu la méprises, et tu veux en être toujours honoré? C'est ton refroidissement, ton oubli, ton indifférence, qui t'ont arraché de son cœur. Il ne faut point cesser d'être aimable quand on veut être toujours aimé. Elle n'a violé ses serments qu'à ton exemple. Il fallait ne la point négliger, et jamais elle ne t'eût trahi. Quel sujet de plainte t'a-t-elle donné dans la retraite où tu l'as trouvée et où tu devais toujours la laisser? Quel attiédissement as-tu remarqué dans sa tendresse? Est-ce elle qui t'a prié de la tirer de ce lieu fortuné? Tu le sais, elle l'a quitté avec le plus mortel regret. Les pleurs qu'elle y versait lui étaient plus doux que les folâtres jeux de la ville. Elle y passait son innocente vie à faire le bonheur de la tienne, mais elle t'aimait mieux que sa propre tranquillité. Après t'avoir voulu retenir, elle quitta tout pour te suivre. C'est toi qui, du sein de la paix et de la vertu, l'entraîna dans l'abîme de vice et de misère où tu t'es toi-même précipité. Hélas, il n'a tenu qu'à toi seul qu'elle ne fut toujours sage et qu'elle ne te rendit toujours heureux. Ô Émile, tu l'as perdue, tu dois te haïr et la plaindre, mais quel droit as-tu de la mépriser? Es-tu resté toi-même irréprochable? Le monde n'a-t-il rien pris sur tes mœurs? Tu n'as point partagé son infidélité, mais ne l'as-tu pas excusée en cessant d'honorer sa vertu? Ne l'as-tu pas excitée en vivant dans des lieux où tout ce qui est honnête est en dérision, où les femmes rougiraient d'être chastes, où le seul prix des vertus de leur sexe est la raillerie et l'incrédulité? La foi que tu n'as point violée a-t-elle été exposée au même risque? As-tu reçu comme elle ce tempérament de feu qui fait les grandes faiblesses ainsi que les grandes vertus? As-tu ce corps trop formé par l'amour, trop exposé au péril par ses charmes et aux tentations par ses sens? Oh, que le sort d'une telle femme est à plaindre! Quel combat n'a-t-elle point à rendre, sans relâche, sans cesse, contre autrui, contre elle-même? Quel courage invincible, quelle opiniâtre résistance, quelle héroïque fermeté lui sont nécessaires! Que de dangereuses victoires n'a-t-elle pas à remporter tous les jours, sans autre témoin de ses triomphes que le ciel et son propre cœur? Et après tant de belles années ainsi passées à souffrir, combattre et vaincre incessamment, un instant de faiblesse, un seul instant de relâche et d'oubli, souille à jamais cette vie irréprochable et déshonore tant de vertus. Femme infortunée, hélas! Un moment d'égarement fait tous tes malheurs et les miens. Oui, son cœur est resté pur. Tout me l'assure. Il m'est trop connu pour pouvoir m'abuser. Et qui sait dans quel piège adroit les perfides ruses d'une femme vicieuse et jalouse de ses vertus ont pu surprendre son innocente simplicité? N'ai-je pas vu ses regrets, son repentir dans ses yeux? N'est-ce pas sa tristesse qui m'a ramené moi-même à ses pieds? N'est-ce pas sa touchante douleur qui m'a rendu toute ma tendresse? Ah, ce n'est pas là la conduite artificieuse d'une infidèle qui trompe son mari et qui se complaît dans sa trahison. Puis, venant ensuite à réfléchir plus en détail sur sa conduite et sur son étonnante déclaration, que ne sentais-je point, en voyant cette femme timide et modeste, vaincre la honte par la franchise, rejeter une estime démentie par son cœur, dédaigner de conserver ma confiance et sa réputation en cachant une faute que rien ne la forçait d'avouer, en la couvrant de caresses qu'elle a rejetées, et craint de usurper ma tendresse de père pour un enfant qui n'était pas de mon sang. Quelle force n'admirais-je pas dans cet invincible auteur de courage qui, même au prix de l'honneur et de la vie, ne pouvait s'abaisser à la fausseté, l'intrépide audace de la vertu. Oui, me disais-je avec un applaudissement secret, au sein même de l'ignominie, cette âme forte conserve encore tout son ressort. Elle est coupable sans être vile, elle a pu commettre un crime, mais non pas une lâcheté. C'est ainsi que peu à peu le penchant de mon cœur me ramenait en sa faveur à des jugements plus doux et plus supportables. Sans la justifier, je l'excusais. Sans pardonner ses outrages, j'approuvais ses bons procédés. Je me complaisais dans ses sentiments. Je ne pouvais me défaire de tout mon amour. Il eût été trop cruel de le conserver sans estime. Sitôt que je crus lui en devoir encore, je sentis un soulagement inespéré. L'homme est trop faible pour pouvoir conserver longtemps des mouvements extrêmes. Dans l'excès même du désespoir, la Providence nous ménage des consolations. Malgré l'horreur de mon sort, je sentais une sorte de joie à me représenter Sophie, estimable et malheureuse. J'aimais à fonder ainsi l'intérêt que je ne pouvais cesser de prendre à elle. Au lieu de la sèche douleur qui me consumait auparavant, j'avais la douceur de m'attendrir jusqu'aux larmes. Elle est perdue à jamais pour moi, je le sais, me disais-je, mais du moins j'oserais penser encore à elle, j'oserais la regretter, j'oserais quelquefois encore gémir et soupirer sans rougir. Cependant, j'avais poursuivi ma route, et distrait par ses idées, j'avais marché tout le jour, sans m'en apercevoir, jusqu'à ce qu'enfin, revenant à moi et n'étant plus soutenu par l'animosité de la veille, je me sentis d'une lassitude et d'un épuisement qui demandait de la nourriture et du repos. Grâce aux exercices de ma jeunesse, j'étais robuste et fort, Je ne craignais ni la faim ni la fatigue, mais mon esprit malade avait tourmenté mon corps, et vous m'avez bien plus garanti des passions violentes qu'appris à les supporter. J'eus peine à gagner un village qui était encore à une lieue de moi. Comme il y avait près de 36 heures que je n'avais pris aucun aliment, je soupais, et même avec appétit. Je me couchais, délivré des fureurs qui m'avaient tant tourmenté, content d'oser penser à Sophie, et presque joyeux de l'imaginer moins défigurée et plus digne de mes regrets que je n'avais espéré. Je dormis paisiblement jusqu'au matin. La tristesse et l'infortune respectent le sommeil et laissent du relâche à l'âme. Il n'y a que les remords qui n'en laissent point. En me levant, je me sentis l'esprit assez calme et en état de délibérer sur ce que j'avais à faire. Mais c'était ici la plus mémorable ainsi que la plus cruelle époque de ma vie. Tous mes attachements étaient rompus ou altérés, tous mes devoirs étaient changés. Je ne tenais plus à rien de la même manière qu'auparavant. Je devenais, pour ainsi dire, un nouvel être. Il était important de peser mûrement le parti que j'avais à prendre. J'en pris un provisionnel pour me donner le loisir d'y réfléchir. J'achevais le chemin qui me restait à faire jusqu'à la ville la plus prochaine, j'entrai chez un maître et je me mis à travailler de mon métier, en attendant que la fermentation de mes esprits fût tout à fait apaisée et que je pusse voir les objets tels qu'ils étaient. Je n'ai jamais mieux senti la force de l'éducation que dans cette cruelle circonstance. Née avec une âme faible, tendre à toutes les impressions, facile à troubler, timide à me résoudre, après les premiers moments, cédée à la nature, je me trouvais maître de moi-même et capable de considérer ma situation avec autant de sang-froid que celle d'un autre. Soumis à la loi de la nécessité, je cessais mes vains murmures, je pliais ma volonté sous l'inévitable joug, je regardais le passé comme étranger à moi, je me supposais commencer de naître, et tirant de mon état présent les règles de ma conduite, en attendant que j'en fusse assez instruit, je me mis paisiblement à l'ouvrage comme si j'eusse été le plus content des hommes. Je n'ai rien tant appris de vous dès mon enfance qu'à être toujours tout entier où je suis, à ne jamais faire une chose et rêver à une autre, ce qui proprement est ne rien faire et n'être tout entier nulle part. Je n'étais donc attentif qu'à mon travail durant la journée. Le soir, je reprenais mes réflexions et relayant ainsi l'esprit et le corps l'un par l'autre, j'en tirais le meilleur parti parce qu'il m'était possible sans jamais fatiguer aucun des deux. Dès le premier soir, suivant le fil de mes idées de la veille, j'examinais si, peut-être, je ne prenais point trop à cœur le crime d'une femme, et si ce qui me paraissait une catastrophe de ma vie n'était point un événement trop commun pour devoir être pris si gravement. Il est certain, me disais-je, que partout où les mœurs sont en estime, les infidélités des femmes déshonorent les maris. Mais il est sûr aussi que dans toutes les grandes villes, et partout où les hommes, plus corrompus, se croient plus éclairés, on tient cette opinion pour ridicule et peu sensée. L'honneur d'un homme, disent-ils, dépend-il de sa femme? Son malheur doit-il faire sa honte? Et peut-il être déshonoré des vices d'autrui? L'autre morale a beau être sévère, celle-ci paraît plus conforme à la raison. D'ailleurs, quelque jugement qu'on porta de mes procédés, n'étais-je pas par mes principes au-dessus de l'opinion publique? Que m'importait ce qu'on penserait de moi, pourvu que dans mon propre cœur, je ne cessasse point d'être bon, juste, honnête? Était-ce un crime d'être miséricordieux? Était-ce une lâcheté de pardonner une offense? Sur quel devoir allais-je donc me régler? Avais-je si longtemps dédaigné le préjugé des hommes pour lui sacrifier enfin mon bonheur? Mais quand ce préjugé serait fondé, quelle influence peut-il avoir dans un cas si différent des autres? Quel rapport d'une infortunée au désespoir, à qui le remords seul arrache l'aveu de son crime, à ces perfides qui couvrent l'heure du mensonge et de la fraude, ou qui mettent l'effronterie à la place de la franchise et se vantent de leur déshonneur? Toute femme vicieuse, toute femme qui méprise encore plus son devoir qu'elle ne l'offense, est indigne de ménagement. C'est partager son infamie que la tolérer. Mais celle à qui l'on reproche plutôt une faute qu'un vice, et qui l'expie par ses regrets, est plus digne de pitié que de haine. On peut la plaindre et lui pardonner sans honte. Le malheur même qu'on lui reproche est garant d'elle pour l'avenir. Sophie, restée estimable jusque dans le crime, sera respectable dans son repentir. Elle sera, d'autant plus fidèle, que son cœur, fait pour la vertu, a senti ce qu'il en coûte à l'offenser. Elle aura tout à la fois la fermeté qui la conserve et la modestie qui la rend aimable. L'humiliation du remords adoucira cette âme orgueilleuse, rendra moins tyrannique l'empire que l'amour lui donne sur moi. Elle en sera plus soigneuse et moins fière. Elle n'aura commis une faute que pour se guérir d'un défaut. Quand les passions ne peuvent nous vaincre à visage découvert, elles prennent le masque de la sagesse pour nous surprendre, et c'est en imitant le langage de la raison qu'elles nous y font renoncer. Tous ces sophismes ne m'en imposaient que parce qu'ils flattaient mon penchant. J'aurais voulu pouvoir revenir à Sophie infidèle, et j'écoutais avec complaisance tout ce qui semblait autoriser ma lâcheté. Mais j'eus beau faire, ma raison, moins traitable que mon cœur, ne put adopter ses folies. Je ne pus me dissimuler que je raisonnais pour m'abuser, non pour m'éclairer. Je me disais avec douleur, mais avec force, que les maximes du monde ne font point loi pour qui veut vivre pour soi-même, et que, préjugé pour préjugé, ceux des bonnes mœurs en ont un de plus qui les favorise. Que c'est avec raison qu'on impute à un mari le désordre de sa femme, soit pour l'avoir mal choisie, soit pour la mal gouverner. Que j'étais moi-même un exemple de la justice de cette imputation, et que si Émile eût été toujours sage, Sophie n'eût jamais failli. Qu'on a droit de présumer que celle qui ne se respecte pas elle-même respecte au moins son mari, s'il en est digne, et s'il sait conserver son autorité. Que le tort de ne pas prévenir le dérèglement d'une femme est aggravé par l'infamie de le souffrir, que les conséquences de l'impunité sont effrayantes, et qu'en pareil cas, cette impunité marque dans l'offensé une indifférence pour les mœurs honnêtes et une bassesse d'âme indigne de tout honneur. Je sentais surtout, en mon fait particulier, que ce qui rendait Sophie encore estimable en était plus désespérant pour moi. Car on peut soutenir ou renforcer une âme faible, et celle que l'oubli du devoir y fait manquer y peut être ramenée par la raison. Mais comment ramener celle qui garde, empêchant tout son courage, qui sait avoir des vertus dans le crime et ne fait le mal que comme il lui plaît? Oui, Sophie est coupable parce qu'elle a voulu l'être. Quand cette âme hautaine a pu vaincre la honte, elle a pu vaincre toute autre passion. Il ne lui en eût pas plus coûté pour m'être fidèle que pour me déclarer son forfait. En vain je reviendrai à mon épouse, elle ne reviendrait plus à moi. Si celle qui m'a tant aimé, si celle qui m'était si chère a pu m'outrager, si ma Sophie a pu rompre les premiers nœuds de mon cœur, si la mère de mon fils a pu violer la foi conjugale encore entière, si les feux d'un amour que rien n'avait offensé, si le noble orgueil d'une vertu que rien n'avait altérée n'ont pu prévenir sa première faute, qu'est-ce qui préviendrait des rechutes qui ne coûtent plus rien? Le premier pas vers le vice est le seul pénible. On poursuit sans même y songer. Elle n'a plus ni amour, ni vertu, ni estime à ménager. Elle n'a plus rien à perdre en m'offensant, pas même le regret de m'offenser. Elle connaît mon cœur. Elle m'a rendu tout aussi malheureux que je puisse l'être. Il ne lui en coûtera plus rien d'achever. Non, je connais le sien. Jamais Sophie n'aimera un homme à qui elle ait donné droit de la mépriser. Elle ne m'aime plus. L'ingrate ne l'a-t-elle pas dit elle-même? Elle ne m'aime plus. La perfide. Ah, c'est là son plus grand crime. J'aurais pu tout pardonner, hors celui-là. Hélas, reprenais-je avec amertume. Je parle toujours de pardonner, sans songer que souvent l'offensé pardonne, mais que l'offenseur ne pardonne jamais. Sans doute elle me veut tout le mal qu'elle m'a fait. Ah, combien elle doit me haïr. Émile, que tu t'abuses quand tu juges de l'avenir sur le passé. Tout est changé. Vainement tu vivrais encore avec elle, les jours heureux qu'elle t'a donnés ne reviendront plus. Tu ne retrouveras plus ta Sophie, et Sophie ne te retrouvera plus. Les situations dépendent des affections qu'on y porte. Quand les cœurs changent. Tout a beau demeurer le même, quand on n'a plus les mêmes yeux, on ne voit plus rien comme auparavant. Ses mœurs ne sont point désespérées, je le sais bien. Elle peut être encore digne d'estime, mériter toute ma tendresse. Elle peut me rendre son cœur, mais elle ne peut n'avoir point failli, ni perdre et m'ôter le souvenir de sa faute. La fidélité, la vertu, l'amour, tout peut revenir, hors la confiance. Et sans la confiance, il n'y a plus que dégoût, tristesse, ennui dans le mariage. Le délicieux charme de l'innocence est évanoui. C'en est fait, ni près ni loin, Sophie ne peut plus être heureuse, et je ne puis être heureux que de son bonheur. Cela seul me décide, j'aime mieux souffrir loin d'elle que par elle, j'aime mieux la regretter que la tourmenter. Oui, tous nos liens sont rompus, ils le sont par elle. En violant ses engagements, elle m'a franchi des miens. Elle ne m'est plus rien, ne l'a-t-elle pas dit encore? Elle n'est plus ma femme. La reverrai-je comme étrangère? Non, je ne la reverrai jamais. Je suis libre, au moins je dois l'être, que mon cœur ne l'est-il autant que ma foi. Mais quoi, mon affront restera-t-il impuni? Si l'infidèle en aime un autre, quel mal lui fais-je en la délivrant de moi? C'est moi que je punis et non pas elle. Je remplis ses vœux à mes dépens. Est-ce là le ressentiment de l'honneur outragé? Où est la justice? Où est la vengeance? Eh, malheureux, de qui veux-tu te venger? De celle que ton plus grand désespoir est de ne pouvoir plus rendre heureuse. Du moins, ne sois pas la victime de ta vengeance. Fais-lui, s'il le peut, quelque mal que tu ne sentes pas. Il est des crimes qu'il faut abandonner au remords des coupables. C'est presque les autoriser que les punir. Un mari cruel mérite-t-il une femme fidèle? D'ailleurs, de quel droit la punir? À quel titre? Es-tu son juge, n'étant même plus son époux? Lorsqu'elle a violé ses devoirs de femme, elle ne s'en est point conservé les droits. Dès l'instant qu'elle a formé d'autres nœuds, elle a brisé les tiens et ne s'en est point cachée. Elle ne s'est point parée à tes yeux d'une fidélité qu'elle n'avait plus. Elle ne t'a ni trahi ni menti. En cessant d'être à toi seule, elle a déclaré ne t'être plus rien. Quelle autorité peut te rester sur elle? S'il t'en restait, tu devrais l'abdiquer pour ton propre avantage. Crois-moi, sois bon par sagesse et clément par vengeance. Défie-toi de la colère, crains qu'elle ne te ramène à ses pieds. Ainsi, tenté par l'amour qui me rappelait, ou par le dépit qui voulait me séduire, que j'eus de combat à rendre avant d'être bien déterminé. Et quand je crus l'être, une réflexion nouvelle ébranla tout. L'idée de mon fils m'attendrit pour sa mère plus que rien n'avait fait auparavant. Je sentis que ce point de réunion l'empêcherait toujours de m'être étrangère, que des enfants forment un nœud vraiment indissoluble entre ceux qui leur ont donné l'être. Et une raison naturelle et invincible contre le divorce. Des objets si chers, dont aucun des deux ne peut s'éloigner, les rapprochent nécessairement. C'est un intérêt commun si tendre qu'il leur tiendrait lieu de société quand il n'en aurait point d'autre. Mais que devenait cette raison qui plaidait pour la mère de mon fils, appliquée à celle d'un enfant qui n'était pas à moi? Quoi, la nature elle-même autorisera le crime. Et ma femme, en partageant sa tendresse à ses deux fils, sera forcée à partager son attachement aux deux pères. Cette idée, plus horrible qu'aucune, qui me passait dans l'esprit, m'embrasait d'une rage nouvelle. Toutes les furies revenaient déchirer mon cœur en songeant à cet affreux partage. Oui, j'aurais mieux aimé voir mon fils mort que d'en voir à Sophie d'un autre père. Cette imagination maigrit plus, m'aliéna plus d'elle que tout ce qui m'avait tourmenté jusqu'alors. Dès cet instant, je me décidai sans retour, et pour ne laisser plus de prise au doute, je cessai de délibérer. Cette résolution bien formée éteignit tout mon ressentiment. Morte pour moi, je ne la vis plus coupable, je ne la vis plus qu'estimable et malheureuse, et sans penser à ses torts, je me rappelais avec attendrissement tout ce qui me la rendait regrettable. Par une suite de cette disposition, je voulus mettre à ma démarche tous les bons procédés qui peuvent consoler une femme abandonnée, car quoique je fusse affecté d'en penser dans ma colère, et quoi qu'elle en eût dit dans son désespoir, je ne doutais pas qu'au fond du cœur, elle n'eût encore de l'attachement pour moi, et qu'elle ne sentît vivement ma perte. Le premier effet de notre séparation devait être de lui ôter mon fils. Je frémis seulement d'y songer, et après avoir été en peine d'une vengeance, je pouvais à peine supporter l'idée de celle-là. J'avais beau me dire, en m'irritant, que cet enfant serait bientôt remplacé par un autre, j'avais beau appuyer avec toute la force de la jalousie sur ce cruel supplément, tout cela ne tenait point devant l'image de Sophie au désespoir de se voir arracher son enfant. Je me vainquis toutefois, je formais, non sans déchirement, cette résolution barbare, et la regardant comme une suite nécessaire de la première où j'étais sûr d'avoir bien raisonné, je l'aurais certainement exécutée malgré ma répugnance si un événement imprévu ne m'eût contraint à la mieux examiner. Il me restait à faire une autre délibération que je comptais pour peu de choses après celle dont je venais de me tirer. Mon parti était pris par rapport à Sophie, il me restait à le prendre par rapport à moi, et à voir ce que je voulais devenir me retrouvant seul. Il y avait longtemps que je n'étais plus un être isolé sur la terre. Mon cœur tenait, comme vous me l'aviez prédit, aux attachements qu'il s'était donnés. Il s'était accoutumé à ne faire qu'un avec ma famille. Il fallait l'en détacher du moins en partie, et cela même était plus pénible que de l'en détacher tout à fait. Quel vide il se fait en nous, combien on perd de son existence, quand on a tenu à tant de choses, et qu'il faut ne tenir plus qu'à soi ou qui pisait, à ce qui nous fait sentir incessamment le détachement du reste. J'avais à chercher si j'étais cet homme encore qui sait remplir sa place dans son espèce quand nul ne s'y intéresse plus. Mais où est-elle cette place pour celui dont tous les rapports sont détruits ou changés? Que faire? Que devenir? Où porter mes pas? À quoi employer une vie qui ne devait plus faire mon bonheur ni celui de ce qui m'était cher et dont le sort m'ôtait jusqu'à l'espoir de contribuer au bonheur de personne? Car si tant d'instruments préparés pour le mien n'avaient fait que ma misère, pouvais-je espérer d'être plus heureux pour autrui que vous ne l'aviez été pour moi? Non, j'aimais mon devoir encore, mais je ne le voyais plus. En rappeler les principes et les règles, les appliquer à mon nouvel état, n'était pas l'affaire d'un moment, et mon esprit fatigué avait besoin d'un peu de relâche pour se livrer à de nouvelles méditations. J'avais fait un grand pas vers le repos, délivré de l'inquiétude de l'espérance, et sûr de perdre ainsi peu à peu celle du désir, en voyant que le passé ne m'était plus rien, je tâchais de me mettre tout à fait dans l'état d'un homme qui commence à vivre. Je me disais qu'en effet, nous ne faisons jamais que commencer, et qu'il n'y a point d'autre liaison dans notre existence qu'une succession de moments présents, dont le premier est toujours celui qui est en acte. Nous mourons et nous naissons chaque instant de notre vie, et quel intérêt la mort peut-elle nous laisser? S'il n'y a rien pour nous que ce qui sera, nous ne pouvons être heureux ou malheureux que par l'avenir, et se tourmenter du passé, c'est tirer du néant les objets de notre misère. Émile, sois un homme nouveau, tu n'auras pas plus à te plaindre du sort que de la nature. Tes malheurs sont nuls, l'abîme du néant les a tous engloutis. Mais ce qui est réel, ce qui est existant pour toi, c'est ta vie, ta santé, ta jeunesse, ta raison, tes talents, tes vertus enfin, si tu le veux, et par conséquent ton bonheur. Je repris mon travail, attendant paisiblement que mes idées s'arrangeassent assez dans ma tête pour me montrer ce que j'avais à faire. Et cependant, en comparant mon état à celui qui l'avait précédé, j'étais dans le calme. C'est l'avantage que procure indépendamment des événements toute conduite conforme à la raison. Si l'on n'est pas heureux, malgré la fortune, quand on sait maintenir son cœur dans l'ordre, on est tranquille au moins en dépit du sort. Mais que cette tranquillité tient à peu de choses dans une âme sensible. Il est bien aisé de se mettre dans l'ordre, ce qui est difficile, c'est d'y rester. Je faillis voir renverser toutes mes résolutions au moment que je les croyais le plus affermies. J'étais entré chez le maître sans m'y faire beaucoup remarquer. J'avais toujours conservé dans mes vêtements la simplicité que vous m'aviez fait aimer. Mes manières n'étaient pas plus recherchées, et les raisées d'un homme qui se sent partout à sa place étaient moins remarquables chez un menuisier qu'il ne l'eût été chez un grand. On voyait pourtant bien que mon équipage n'était pas celui d'un ouvrier, mais à ma manière de me mettre à l'ouvrage, on jugea que si je l'avais été, et qu'ensuite, avancé à quelques petits postes, j'en étais déchu pour rentrer dans mon premier état. Un petit parvenu, retombé, n'inspire pas une grande considération, et on me prenait à peu près au mot sur l'égalité où je m'étais mis. Tout à coup, je vis changer avec moi le ton de toute la famille. La familiarité prit plus de réserve. On me regardait au travail avec une sorte d'étonnement. Tout ce que je faisais dans l'atelier, et j'y faisais tout mieux que le maître, excitait l'admiration. L'on semblait épier tous mes mouvements, tous mes gestes. On tâchait d'en user avec moi comme à l'ordinaire, mais cela ne se faisait plus sans effort, et l'on eût dit que c'était par respect qu'on s'abstenait de m'en marquer davantage. Les idées, dont j'étais préoccupé, m'empêchèrent de m'apercevoir de ce changement, aussitôt que j'aurais fait dans un autre temps. Mais mon habitude, en agissant d'être toujours à la chose, me ramenant toujours bientôt à ce qui se faisait autour de moi, ne me laissa pas longtemps ignorer que j'étais devenu, pour ces bonnes gens, un objet de curiosité qui les intéressait beaucoup. Je remarquai surtout que la femme ne me quittait pas des yeux. Ce sexe a une sorte de droit sur les aventuriers qui les lui rend en quelque sorte plus intéressants. Je ne poussais pas un coup d'échoppe qu'elle ne parut effrayée, et je la voyais toute surprise de ce que je ne m'étais pas blessée. « Madame, lui dis-je une fois, je vois que vous vous défiez de mon adresse. Avez-vous peur que je ne sache pas mon métier ?»« Monsieur, me dit-elle, je vois que vous savez bien le nôtre. On dirait que vous n'avez fait que cela toute votre vie. » À ce mot, je vis que j'étais connue. Je voulus savoir comment je l'étais. Après bien des mystères, j'appris qu'une dame était venue, il y avait 2 jours, descendre à la porte du maître, que, sans permettre qu'on m'avertît, elle avait voulu me voir, qu'elle s'était arrêtée derrière une porte vitrée, d'où elle pouvait m'apercevoir au fond de l'atelier, qu'elle s'était mise à genoux à cette porte, ayant à côté d'elle un petit enfant qu'elle serrait avec transport dans ses bras par intervalles, poussant de longs sanglots à demi étouffés, versant des torrents de larmes et donnant divers signes d'une douleur dont tous les témoins avaient été vivement émus, qu'on l'avait vue plusieurs fois sur le point de s'élancer dans l'atelier, qu'elle avait paru ne se retenir que par de violents efforts sur elle-même, qu'enfin, après m'avoir considéré longtemps, avec plus d'attention et de recueillement, elle s'était levée tout d'un coup, et collant le visage de l'enfant sur le sien, elle s'était écriée à demi-voix. « Non, jamais il ne voudra t'ôter ta mère. Viens, nous n'avons rien à faire ici. » À ces mots, elle était sortie avec précipitation, puis, après avoir obtenu qu'on ne parlerait de rien, remontée dans son carrosse, et partir comme un éclair n'avait été pour elle que l'affaire d'un instant. Ils ajoutèrent que le vif intérêt, dont ils ne pouvaient se défendre, pour cette aimable dame, les avait rendus fidèles à la promesse qu'ils lui avaient faite et qu'elle avait exigée avec tant d'instance, qu'il n'y manquait qu'à regret, qu'il voyait aisément à son équipage et plus encore à sa figure, que c'était une personne d'un haut rang, et qu'il ne pouvait présumer autre chose de sa démarche et de son discours, sinon que cette femme était la mienne, car il était impossible de la prendre pour une fille entretenue. Jugez de ce qui se passait en moi durant ce récit. Que de choses tout cela supposait! Quelles inquiétudes n'avait-il pas fallu avoir? Quelles recherches n'avait-il point fallu faire pour retrouver ainsi ma trace? Tout cela est-il de quelqu'un qu'il n'aime plus? Quel voyage, quel motif l'avait pu faire entreprendre. Dans quelle occupation elle m'avait surpris? Ah, ce n'était pas la première fois, mais alors, elle n'était pas à genoux, elle ne fondait pas en larmes. Ô temps, temps heureux! Qu'est devenu cet ange du ciel? Mais que vient donc faire ici cette femme? Elle amène son fils, mon fils. Et pourquoi? Voulait-elle me voir, me parler? Pourquoi s'enfuir? Me braver? Pourquoi ses larmes? Que me veut-elle, la perfide? Vient-elle insulter ma misère? A-t-elle oublié qu'elle ne m'est plus rien? Je cherchais en quelque sorte à m'irriter de ce voyage pour vaincre l'attendrissement qu'il me causait, pour résister aux tentations de courir après l'infortuné qui m'agitait malgré moi. Je demeurai néanmoins. Je vis que cette démarche ne prouvait autre chose sinon que j'étais encore aimé, et cette supposition même, étant entrée dans ma délibération, ne devait rien changer au parti qu'elle m'avait fait prendre. Alors, examinant plus posément toutes les circonstances de ce voyage, pesant surtout les derniers mots qu'elle avait prononcés en partant, j'y crus démêler le motif qui l'avait amené et celui qui l'avait fait repartir tout d'un coup sans s'être laissé voir. Sophie parlait simplement, mais tout ce qu'elle disait portait dans mon cœur des traits de lumière, et s'en fut un que ce peu de mots. « Il ne t'ôtera pas ta mère, » avait-elle dit. C'était donc là la crainte qu'on ne la lui ôtât qu'il l'avait amenée. Et c'était la persuasion que cela n'arriverait pas qu'il l'avait fait repartir. Et d'où la tirait-elle, cette persuasion? Qu'avait-elle vu? Émile en paix, Émile au travail. Quelle preuve pouvait-elle tirer de cette vue, sinon qu'Émile, en cet état, n'était point subjugué par ses passions et ne formait que des résolutions raisonnables? Celle de la séparer de son fils ne l'était donc pas selon elle, quoiqu'elle le fût selon moi. Lequel avait tort? Le mot de Sophie décidait encore ce point, et en effet, en considérant le seul intérêt de l'enfant, cela pouvait-il même être mis en doute? Je n'avais envisagé que l'enfant ôté à la mère, et il fallait envisager la mère ôtée à l'enfant. J'avais donc tort. Ôter une mère à son fils, c'est lui ôter plus qu'on ne peut lui rendre, surtout à cet âge. C'est sacrifier l'enfant pour se venger de la mère. C'est un acte de passion, jamais de raison, à moins que la mère ne soit folle ou dénaturée. Mais Sophie est celle qu'il faudrait désirer à mon fils quand il en aurait une autre. Il faut que nous l'élevions, elle ou moi, ne pouvant plus l'élever ensemble, ou bien, pour contenter ma colère, il faut le rendre orphelin. Mais que ferais-je d'un enfant dans l'état où je suis? J'ai assez de raisons pour voir ce que je puis ou ne puis faire, non pour faire ce que je dois. Traînerais-je un enfant de cet âge en d'autres contrées, ou le tiendrais-je sous les yeux de sa mère pour braver une femme que je dois fuir? Ah, pour ma sûreté, je ne serai jamais assez loin d'elle. Laissons-lui l'enfant, de peur qu'il ne lui ramène à la fin le père. Qu'il lui reste seul pour ma vengeance, que chaque jour de sa vie il rappelle à l'infidèle le bonheur dont il fut le gage et l'époux qu'elle s'est ôté. Il est certain que la résolution d'ôter mon fils à sa mère avait été l'effet de ma colère. Sur ce seul point, la passion m'avait aveuglé, et ce fut le seul point aussi sur lequel je changeais de résolution. Si ma famille eût suivi mes intentions, Sophie eût élevé cet enfant, et peut-être vivrait-il encore. Mais peut-être aussi, dès lors, Sophie était-elle morte pour moi. Consolée dans cette chère moitié de moi-même, elle n'eût plus songé à rejoindre l'autre, et j'aurais perdu les plus beaux jours de ma vie. Que de douleurs devaient nous faire expier nos fautes avant que notre réunion nous les fît oublier. Nous nous connaissions si bien mutuellement qu'il ne me fallut, pour deviner le motif de sa brusque retraite, que sentir qu'elle avait prévu ce qui serait arrivé si nous nous fussions revus. J'étais raisonnable, mais faible, elle le savait, et je savais encore mieux combien cette âme sublime et fière conservait d'inflexibilité jusque dans ses fautes. L'idée de Sophie, rentrée en grâce, lui était insupportable. Elle sentait que son crime était de ceux qui ne peuvent s'oublier. Elle aimait mieux être punie que pardonnée. Un tel pardon n'était pas fait pour elle. La punition même l'avilissait moins à son gré. Elle croyait ne pouvoir effacer sa faute qu'en l'expiant, ni s'acquitter avec la justice qu'en souffrant tous les maux qu'elle avait mérités. C'est pour cela qu'intrépide et barbare dans sa franchise, Elle dit son crime à vous, à toute ma famille, taisant en même temps ce qui l'excusait, ce qui la justifiait peut-être, le cachant, dis-je, avec une telle obstination qu'elle ne m'en a jamais dit un mot à moi-même, et que je ne l'ai su qu'après sa mort. D'ailleurs, rassurée sur la crainte de perdre son fils, elle n'avait plus rien à désirer de moi pour elle-même. Me fléchir eût été m'avilir, et elle était d'autant plus jalouse de mon bonheur qu'il ne lui en restait point d'autre. Sophie pouvait être criminelle, mais l'époux qu'elle s'était choisi devait être au-dessus d'une lâcheté. Ses raffinements de son amour-propre ne pouvaient convenir qu'à elle, et peut-être n'appartenait-il qu'à moi de les pénétrer. Je lui eus encore cette obligation, même après m'être séparé d'elle, de m'avoir ramené d'un parti peu raisonné que la vengeance m'avait fait prendre. Elle s'était trompée en ce point dans la bonne opinion qu'elle avait de moi. Mais cette erreur n'en fut plus une aussitôt que j'y eus pensé. En ne considérant que l'intérêt de mon fils, je vis qu'il fallait le laisser à sa mère, et je m'y déterminai. Du reste, confirmé dans mes sentiments, je résolus d'éloigner son malheureux père des risques qu'il venait de courir. Pouvais-je être assez loin d'elle, puisque je ne devais plus m'en rapprocher? C'était elle encore, c'était son voyage, qui venait de me donner cette sage leçon. Il m'importait pour la suivre, de ne pas rester dans le cas de la recevoir deux fois. Il fallait fuir. C'était là ma grande affaire et la conséquence de tous mes précédents raisonnements. Mais où fuir? C'était à cette délibération que j'en étais demeuré, et je n'avais pas vu que rien n'était plus indifférent que le choix du lieu, pourvu que je m'éloignasse. À quoi bon t'en balancer sur ma retraite, puisque partout je trouverais à vivre ou mourir, et que c'était tout ce qui me restait à faire? Quelle bêtise de l'amour-propre de nous montrer toujours toute la nature intéressée aux petits événements de notre vie. N'eût-on pas dit, à me voir délibérer sur mon séjour, qu'il importerait beaucoup au genre humain que j'allasse habiter un pays plutôt qu'un autre, et que le poids de mon corps allait rompre l'équilibre du globe? Si je n'estimais mon existence que ce qu'elle vaut pour mes semblables, je m'inquiéterais moins d'aller chercher des devoirs à remplir, comme s'ils ne me suivaient pas en quelque lieu que je fusse, et qu'ils ne s'en présentaient pas toujours autant qu'en peut remplir celui qui les aime. Je me dirais qu'en quelque lieu que je vive, en quelque situation que je sois, je trouverais toujours à faire ma tâche d'homme, et que nul n'aurait besoin des autres si chacun vivait convenablement pour soi. Le sage vit au jour la journée, et trouve tous ses devoirs quotidiens autour de lui. Ne tentons rien au-delà de nos forces, et ne nous portons point en avant de notre existence. Mes devoirs d'aujourd'hui sont ma seule tâche, ceux de demain ne sont pas encore venus. Ce que je dois faire à présent est de m'éloigner de Sophie, et le chemin que je dois choisir est celui qui m'en éloigne le plus directement. Tenons-nous-en là. Cette résolution prise, je mis l'ordre qui dépendait de moi à tout ce que je laissais en arrière. Je vous écrivis, j'écrivis à ma famille, j'écrivis à Sophie elle-même. Je réglai tout. Je n'oubliais que les soins qui pouvaient regarder ma personne. Aucun ne m'était nécessaire, et sans valet, sans argent, sans équipage, mais sans désir et sans soins, je partis seul et à pied. Chez les peuples où j'ai vécu, sur les mers que j'ai parcourues, dans les déserts que j'ai traversés, errant durant tant d'années, je n'ai regretté qu'une seule chose, et c'était celle que j'avais à fuir. Si mon cœur m'eût laissé tranquille, mon corps n'eût manqué de rien.